Bonjour à tous, je suis Jonathan Ciboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast!
Bienvenue dans le podcast Luxury Insight Fashion Network. Dans ce podcast aujourd'hui, nous accueillerons Christine Fung. Bonjour Christine.
Bonjour Olivier.
Christine, vous êtes designer,
oui,
créatrice.
C'est ça.
Vous avez votre propre marque que vous relancez actuellement. Mmh. Et ça fait une petite vingtaine d'années que vous êtes dans le secteur, à la fois avec votre marque, mais aussi en tant que consultante, en accompagnement, en tant que directrice artistique de certaines maisons. On va raconter un peu tout ça. Moi, ce qui m'inspire, c'est que j'ai vu dans des interviews que vous avez déjà données que toute petite, c'était déjà quelque chose qui vous animait en fait de travailler le vêtement. D'où ça vient exactement cette passion pour le vêtement?
C'est une vocation absolue.
Oui.
Depuis que je suis toute petite, vraiment, je sais que c'est cette voie-là qui m'attend et qui est là.
C'est venu tout seul ou vous aviez de la famille qui était déjà dans ce secteur-là? Vous aviez des gens qui étaient inspirés par le vêtement, une passion pour la mode?
Alors pas du tout, vraiment rien à voir. Des parents fonctionnaires, instituteurs, directeurs d'école et infirmières. Et donc c'est venu comme ça, par peut-être la fréquentation des expos, des musées, des églises, des châteaux. Voilà, j'avais des parents dans la culture, enfin qui me trimballaient un petit peu partout.
Oui. Et justement, qu'est-ce qui vous plaisait enfant? Vous faisiez quoi? C'était des vêtements pour les poupées, d'autres choses?
Alors, je m'ennuyais beaucoup quand j'étais petite.
D'accord.
Parce que j'avais pas le droit de regarder la télé. Très peu de... Enfin bon, voilà, on était un peu isolés en termes de... Et donc, je développais un imaginaire fort et je m'amusais avec des carrés de tissu à sculpter des robes.
D'accord. Et vous vous souvenez de la première que vous avez faite ou pas? Si c'était de la couleur, si c'était des...
C'était dans des serviettes de restaurant.
Ah, parce que voilà. À quel moment, cette passion d'enfant, vous vous dites, ça peut devenir quelque chose, un métier, ou en tout cas une passion sur laquelle je vais faire des études, je vais travailler dessus. À quel moment vous basculez sur un projet?
Alors, on me présente assez vite ma tante qui a fait l'école Dupéré, qui est une école d'art appliqué public, et qui me dit, en fait, il y a très peu de débouchés dans la mode, change de voie. Alors, j'oublie que je veux faire de la mode, je me dirige vers d'autres études, et puis petit à petit, en fait, les choses remontent. Et arrivé vers 17-18 ans, je prépare quand même des concours aux école d'art appliqué de Beaux-Arts. Et puis, petit à petit, ça marche pas aux Beaux-Arts, mais je suis prise à Dupéré, aux Arts Déco, et les choses remontent. Et je me rends compte que finalement, y a une réminiscence comme ça, et que je suis alignée avec...
Qu'est-ce qui vous plaît justement quand vous touchez cette matière-là, de la création, les Beaux-Arts, Dupéré? Qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quoi vous penchez? Est-ce que vous avez des premiers coups de cœur en termes créatifs?
Ce qui est assez formidable dans la mode, c'est que ça réunit un grand nombre de disciplines. Que ce soit finalement le textile, le stylisme et la coupe, le moulage, enfin l'idée du corps et du volume, l'architecture, mais aussi le graphisme, le design d'espace. Et puis si on prend encore plus de distance, une vision sur la société, une vision sur le rapport du corps, le rapport des femmes à leur temps. Et c'est très très large. Et donc ça m'a plu dans ce médium, que ce soit la croisée des chemins et que ce soit si facile et créatif pour à la fois manipuler plein d'outils de l'époque et être un moyen d'expression qui, à mes yeux, est un vrai art à part entière, qui n'est pas un art mineur, mais qui est fondamental, en fait, dans l'évolution de la société.
Quand vous dites c'est un art, c'est intéressant parce qu'il y a finalement assez peu de DA ou de créatifs qui le vivent forcément comme ça.
Oui.
Vous, c'est la manière dont vous... c'est un peu comme prendre un pinceau et travailler sur une toile.
Alors, je corrige peut-être, c'est un art, mais qui est aussi une industrie et un artisanat. Un art, une industrie, un artisanat.
D'accord.
Et c'est aussi cette triangulation que je trouve passionnante. et qui permet de changer d'échelle assez facilement entre l'échelle du prototype, l'échelle de l'artisanat avec les petites séries et l'échelle industrielle quand on bosse pour des clients qui font des millions de pièces. Voilà. Il y a quelque chose d'assez fort dans la capacité aussi à interférer avec les corps des gens, avec les mouvements de l'époque, avec les sociétés, et avec les influences, avec l'idée d'écrire quelque chose de très personnel et en même temps de très collectif.
Quand vous apprenez les bases de la mode, vous avez quelles inspirations? Et peut-être à ce moment-là, il y a des inspirations qui viennent sans trop choquer avec ce que vous croyez être à la mode. Comment vous vivez cette période-là d'apprentissage?
Alors, c'est une période, Dupéré, c'est une école formidable, très créative, très conceptuelle. Et ce qui m'a permis aussi, après, d'aller à l'IFM pour compléter avec une vision beaucoup plus marketing et management du métier. Mais en tout cas, en termes d'apprentissage, les démarrages sont essentiellement autour du corps et de la structure et du mouvement. On dessine énormément, on moule, on sculpte, on manipule, on teint, on sérigraphie. Et c'est vraiment, on est dans le makers, on est dans le faire. Mmh. On est peu dans le dire et le penser. Mais finalement, cette pensée, elle vient dans l'action. C'est aussi l'intelligence de la main. Et c'est nourri, on a de la chance d'être dans un quartier magnifique à Dupéré. Et donc, on est baigné, par des galeries, par les influences des expos qui sont imprégnantes, en fait.
Et sur la manière dont, à ce moment-là, vous appréhendez ce secteur de la mode, pourquoi vous dites, en complément, j'ai besoin du marketing, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus business, finalement. Oui. À quel moment vous dites, j'ai besoin de ça?
En fait, c'est formidable, mais je me rends compte qu'on plane un peu. dans cette école, et qu'il y a un vrai gap entre ceux qui arrivent après à en faire un business, un métier, et à s'insérer dans une économie. Et puis toutes ces manipulations textiles qu'on fait, et il faut articuler ça. Et aussi, je me rends compte que la mode, c'est un métier d'équipe, c'est un métier collectif. Et on est aussi face à des gens qui n'ont pas la même construction neuronale vis-à-vis d'un produit, qui vont l'aborder par d'autres faits, le prix, le ciblage, une vision business. Et donc, je me rends compte qu'il me manque une partie du langage pour arriver à m'insérer dans cette industrie. Et l'IFM a été fondée sur ce concept clé du binôme et du tandem créateur, à la manière de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, donc quelque chose de très bicéphale, qui est en même temps fondamental, puisqu'en fait, quand vous venez de créer une collection, vous venez d'accoucher, et vous n'avez plus l'énergie d'aller la vendre, et la distribuer, et puis d'aller en parler. Et voilà, c'est vraiment deux métiers. Donc je comprends qu'il y a vraiment une bipolarité du métier, et qu'il faut arriver à comprendre ce même langage, et à trouver des passerelles avec les gens du métier d'en face.
À quel moment qu'est-ce que vous apprenez finalement à l'IFM, et qu'est-ce que vous gardez de compréhension, et est-ce que quand vous faites l'IFM, c'est pour avoir cette compréhension, mais pas pour passer du côté business? Non, c'est vraiment l'idée d'avoir la compréhension.
Voilà, comme un langage. Mmh. On apprend quelques bases. Mmh. On a cette compréhension de leur univers, de l'univers des gens du marketing. Et on a cette capacité aussi à se mettre dans leur basket. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de workshops à l'IFM et on passe du rôle de l'un à l'autre. Et c'est tout l'enjeu d'apprendre à travailler ensemble et aussi d'inverser nos priorités.
Mmh. Et vous sortez de l'IFM en 2002, c'est ça?
C'est ça, exactement.
À ce moment-là, vous avez envie de quoi? Vous avez déjà en tête de créer un jour votre marque, ou est-ce que vous avez plutôt l'envie de rejoindre une grande maison de luxe? Comment vous voyez quel est le champ des possibles qui s'ouvre à vous à ce moment-là?
À ce moment-là, en sortant l'IFM, on a déjà fait de nombreux workshops en faisant des cas d'études sur notre propre marque. Et là, on a déjà construit de nombreux business plans. Et donc, je sais qu'il faut une grande équipe, un réseau, des financements et aussi du temps. La possibilité de se dire que ça va pas marcher en une saison, deux, trois, qu'il va falloir faire un travail de fond, une course, dans la durée. Et donc, je sais que ça va être un travail à construire et qu'il y a aussi quelque chose d'identitaire à construire en parallèle, qu'on est un petit peu... Enfin, je me sens toujours dans la motivation et l'envie, mais très lucide, très consciente face à ce réseau que je n'ai pas encore, ces financements que je ne suis pas encore capable d'avoir. Et donc, j'ai la nécessité de travailler en sortant de l'école. Voilà, il y a plein de mes camarades qui vont faire des stages de 6 mois, non rémunérés, dans des belles maisons. Mais moi, j'en ai pas la possibilité. Et donc, je cherche un emploi et on me présente Christophe Lemaire, à l'époque, qui est un des premiers directeurs artistiques qui a à la fois sa marque de créateur, mais qui est aussi DA d'une maison, qui n'a rien à voir avec sa propre identité. Et donc, c'est un des premiers à arriver à se dissocier et à faire le job hyper bien des deux côtés.
Donc, à l'époque, Christophe Lemaire est chez Lacoste. En même temps, il est en train de monter sa marque.
Et il a dû. C'est pas si simple. Et donc, je décide d'aller à ses côtés pour apprendre ce process qui me paraît assez novateur.
Alors, qu'est-ce que vous apprenez justement quand vous travaillez avec le quotidien? Parce que vous n'êtes pas avec lui du côté Lacoste. Vous êtes avec lui du côté Lemaire.
Côté Lemaire, exactement. Et aussi, on change de modèle, en fait. On était dans le modèle du créateur couturier à la Martin Margiela. Ça avait été ce modèle-là pendant des années 90 à 2000. Et 2002, vraiment, c'est ce nouveau cap où plein de gens décrivent cette difficulté à exister en tant que couturier et cette obligation à pouvoir pérenniser et financer un business qui est à la fois un business créatif, mais qui doit avoir une économie. Et donc, chez Christophe Lemaire, ce que j'apprends et qui est fascinant, c'est qu'il divise son temps de travail, il divise ses équipes et il essaye de jongler du mieux possible. Et c'est assez intéressant, je perçois toutes les difficultés aussi à faire les deux en même temps, à être... Voilà, et en même temps, de l'un dépend l'autre. Enfin,
et vous faites quoi à ce moment-là
À ce moment-là, je l'assiste et j'assiste le studio.
D'accord.
Et on n'est que trois.
Ça veut dire quoi? Faut tout faire, en fait.
Et alors, moi, je suis à ce moment-là à la recherche des fournitures, des tissus. S'il manque des zips, faut les trouver. Je dessine aussi une petite partie des accessoires. Je donne un coup de main sur tout les illustrations, des fiches techniques, des boucles de vente. Enfin, voilà, sur Illustrator pour faire des motifs.
Et vous restez combien de temps avec Christophe Lemaire?
Je reste que 6 mois parce qu'en fait, il ferme assez vite sa marque. Enfin, et c'est là aussi que je sens que c'est très complexe en termes de finances. C'est-à-dire que je trouve qu'il est extrêmement talentueux et malgré ça, je crois que c'est son deuxième dépôt de bilan à ce moment-là ou son premier, je ne sais plus.
Et qu'est-ce que ça apporte de vous, avec le recul, d'avoir vécu cette période qui n'est jamais agréable au sein d'une entreprise? Qu'est-ce que ça vous apporte
Ça me fait comprendre qu'en fait, le talent, c'est pas le talent qui compte. C'est aussi cette manière de l'orchestrer et de s'entourer.
Et une fois que vous sortez de chez Lemaire, vous faites quoi?
Une fois que je sors de chez Lemaire, l'IFM, l'Institut français de la mode, me rappelle et me propose de revenir travailler avec eux pour organiser la scénographie du musée Galliera et de la nouvelle promotion de création qui sort, la promo 2003. Et pendant 9 mois, passionnant, je travaille avec le musée Galliera, l'IFM et les élèves. Et Francine Perron, à l'époque, qui est l'icône, qui est la coordinatrice pédagogique de l'IFM et qui me prend sous son aile, enfin qui a été ma prof aussi. Et on a gardé d'excellentes relations. Et elle me prend parce qu'elle me dit « Christine, je sais que tu es tellement débrouillarde que tu passeras toujours soit par la fenêtre, soit par la cheminée, soit par les fenêtres. » Et voilà, viens à mes côtés. Et ça va être, c'est à la fois passionnant puisque c'est de la production d'événements. Et ça aussi, c'est très lié à la mode. Finalement, la mode, c'est un spectacle. C'est un événement, c'est événementiel. Et en même temps, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de dialogue créatif.
Et là, justement, ce côté mission, c'est quelque chose qui vous suit tout au long de votre carrière, de travailler sur la mission. En quoi c'est une façon d'organisation de son travail? En quoi ça vous intéresse? Et comment vous, à chaque mission, vous arrivez à trouver une motivation et la capacité d'être dynamique sur chaque mission?
La mission, ça a ceci d'intéressant, c'est que c'est timé. Il y a un temps court. Il y a un objectif. Et puis, en général, c'est rémunéré. Et puis après, on peut passer à d'autres choses où on peut en mettre deux en parallèle. Donc, c'est assez cadré. Et j'adore cette idée aussi de fonctionner et d'arriver à m'insérer comme la pièce d'un puzzle dans un rouage.
D'accord.
Et aussi à apporter de l'énergie, à apporter de la création et
parce
à
que
faire
c'est,
boule de neige.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous arrivez pour être la plus-value d'un projet. En tout cas, le plus souvent en tant que consultant externe, c'est ce qu'on attend de vous.
Bien sûr, on attend, je pense, cette énergie, ce regard, cette fraîcheur, cette capacité à avoir une pensée divergente et à connecter des choses qui sont peut-être out of the box et qui vont faire sens et à faire des ponts, des liens.
Dans cette période où vous avez plusieurs projets qui s'enchaînent ou qui sont gérés en même temps, est-ce qu'il y a des projets qui vous ont marqué, des rencontres aussi qui ont été importantes sur l'évolution de votre approche du métier?
Dernièrement?
Sur les 10 dernières années peut-être.
J'admire toujours les entrepreneurs pour leur capacité à foncer, à aller de l'avant et à construire les choses. Ça, c'est assez fondamental. C'est à la fois une part d'inconscience et de conscience. Mmh. C'est OK. On sent que c'est pas facile, mais on y va parce qu'il y a quelque chose de fort et qui est fondamental pour nous, qui va être constructif.
Dans votre parcours, vous me disiez ça, il y a eu un moment important. C'était un moment où vous avez présenté des projets pour des concours. Mmh. Et ça a été aussi structurant, vous m'expliquez ça. Qu'est-ce que ça a de structurant de participer à des concours? Pourquoi déjà vous étiez lancé dans ces concours-là? Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors, donc, après avoir bossé chez le maire et chez l'IFM, je décide d'acquérir un maximum d'expérience pour comprendre comment fonctionne cette machine. Mmh. Et puis, au bout de 8 ans, j'avais compris.
D'accord. Alors,
j'avais mis aussi pas mal de sous de côté et je décide de me lancer parce que je sens que c'est le bon moment. J'ai 32 ans à l'époque. C'est à la fois, j'ai amassé de l'expérience. Je sens qu'il faut y aller, il faut sauter avant d'avoir peur d'y aller, justement. Et donc, je me dis, je vais lancer ma marque et je vais utiliser les leviers des concours pour gagner en notoriété et éventuellement, si je les gagne, gagner en financement. Mmh.
Voilà. Et le fait d'attendre effectivement 8 ans, oui. Ça peut aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes créateurs qui ont moins de la trentaine et qui se lancent après quelques années à la sortie de leurs études, voire directement à la sortie de leurs études. Comment vous appréhendiez à l'époque le fait d'avoir cet apprentissage? Pourquoi c'était si important de se lancer avant?
Parce qu'en fait, il fallait que je gagne en puissance de travail et en réseau et comprendre vraiment où étaient les petites failles dans lesquelles on pouvait se glisser et comprendre et faire un petit peu en dehors des chemins.
Et sur le financement, vous disiez, oui, j'avais aussi besoin d'avoir une mise de départ.
Complètement. Au moment où je décide de me lancer, j'ai 1 an d'économie.
D'accord.
Peux tenir en apnée pendant 1 an.
D'accord. Voilà. Donc ça aussi, c'était vraiment important d'avoir ce socle-là.
C'était important. Et surtout, je me lance, mais j'ai aussi les clients qui vont me permettre de tenir les mois d'après.
D'accord. En fait. Oui, vous saviez déjà qu'il y avait une clientèle qui était là potentiellement.
Voilà, je m'étais déjà mis petit à petit en freelance et donc je garde ces clients précieusement tout en décidant de me lancer.
Entre le fait de travailler pour des marques, pour des clients sur des missions et le fait de dire je construis mon identité de marque, c'est complètement différent. C'est aussi une approche et une manière de travailler différente. Comment vous segmentiez ça et comment vous segmentez toujours ça dans votre approche du travail?
Oui, c'est une bonne question parce que souvent les choses s'infusent et donc il y a aussi un dialogue entre les deux, les différentes identités pour lesquelles on travaille. Et donc j'utilise ma propre expérience pour la réinjecter dans celle des clients. Mais de l'énergie des clients, j'en prends aussi une expertise et puis des nouveaux process. Et petit à petit, j'affine mes méthodes. Et après, pour bien clarifier les identités de marque entre les différents clients ou les différentes missions, ben là, je me crée des sortes d'univers dans la tête, des moodboards, des choses très différentes. Je vais faire exprès de travailler les opposés et les contraires.
D'accord. Donc, ça vous arrivez à ce que ça s'influe, qu'il y ait une influence de l'un vers l'autre, mais avec des limites quand même bien définies.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas trop d'influence. Sinon, le client croit que vous avez tendance à recycler des choses. Enfin, non, ce qui est bien, c'est vraiment de bien différencier. Et donc, je fais mon maximum pour que ça ne se ressemble pas. Et je travaille par contraste, en fait.
Et comment, justement, vous arrivez à créer votre identité de marque et à avoir à côté l'ADN d'une marque pour laquelle vous travaillez pendant 6, 9, 12 mois?
Alors, ce qui est bien, c'est que je pars de l'ADN du client, de ce qu'il me dit, mais de ce qu'il n'arrive pas à dire non plus. Et de ce qui ne s'est pas encore formulé, mais de ce qui pourra coller. Et donc, comme un code ADN, je le dissèque et j'explose chacun des éléments pour aussi pousser les murs, pour donner encore plus d'ampleur à chacun de ces codes. Quand je suis arrivée chez Léonard, par exemple, les codes, c'était simple, c'était l'orchidée, le rose fuchsia, le jersey de soie. Donc, ma première collection, ça a été de dire, écoutez, je mettrai ni fleurs, ni rose fuchsia. Et on va tout faire pour travailler des tissus techniques innovants et avoir une approche textile beaucoup plus stiff et architecturée.
Justement, Léonard, ça, dans votre carrière, c'est un moment assez important parce que ça fait 2-3 ans que vous avez la marque, votre marque à vous et qui fonctionne. Oui. Et là, vous prenez un poste de directrice de la création chez Léonard,
exact.
Qui va durer sur plus d'une mission, en fait, sur plusieurs années.
Voilà. Donc, en 2016, je suis recrutée chez Léonard, mais comme vous le dites, ça fait 3-4 ans que j'ai lancé ma marque. J'ai gagné plein de prix à ce moment-là. L'Andam, notamment, fondée par Nathalie Dufour et Pierre Berger. Et au moment où j'arrive, c'est en fait un cap, c'est charnière, c'est-à-dire que c'est ma 9e collection sous mon nom. J'arrive à un stade où il faudrait que je trouve des financiers. Je suis à une échelle artisanale, mais il faudrait que je change l'échelle et que je passe à une échelle plus industrielle. Mais ce cap et ce changement d'échelle, c'est un vrai palier.
D'accord.
Qui est extrêmement difficile à passer toute seule. Parce qu'en fait, vous avez un vrai souci d'échelle. C'est-à-dire que vous teniez avant dans 50 mètres carrés avec 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Tout d'un coup, il faudrait que vous soyez 30 avec un stock, avec des immenses bureaux. Et ça, vous pouvez pas du tout le financer si vous n'avez pas construit une force de vente puissante. Mais pour ça, il faudrait aussi avoir eu des moyens d'embaucher des commerciaux. Bref, ça se mord la queue. Et je sens que je suis à la fin de ce palier de l'échelle artisanale.
D'accord.
Et je sens que la suite, c'est de passer sur mon cœur de métier. Parce que, ah oui, quand vous avez votre propre marque, vous faites 10 métiers en un, dont 9 que vous n'avez pas choisis.
Oui.
C'est-à-dire que le créatif que vous étiez, qui a voulu lancer sa marque, finalement, il n'a même plus le temps d'exister. Puisque vous devez faire de la compta, des RH, de la relance, de facturation.
Résoudre des problèmes de sourcing.
Exactement. Vous occupez toute cette équipe et vous n'êtes pas formé. Vous avez appris à faire des gammes de couleurs et des motifs.
Et pourtant, vous aviez anticipé tout ça.
J'avais anticipé tout ça, puisque j'avais essayé de comprendre au fur et à mesure et puis d'analyser. Et oui, heureusement d'ailleurs que j'ai ce bagage. Parce que sinon, ça n'aurait pas duré 5 ans à l'époque. Et donc, je décide de me concentrer et de venir donc, chez Léonard pour exercer mon métier au cœur même de mes compétences. Et donc d'être la créa d'un gros paquebot qui a déjà des équipes commerciales et qui est déjà déployé à l'international.
Quel apprentissage vous faites chez Léonard justement de ce cadre-là, d'une marque déjà déployée à l'international, qui a déjà ses structures.
Une marque ancienne. Qui a déjà vu passer une dizaine de DA.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, avec un bagage assez important.
Un très très fort.
Oui.
Et un bagage important, voire un poids, et qu'il faut à la fois dépoussiérer et respecter.
Oui.
Alors, souvent, je vois des DA arriver et qui font un peu comme si c'était chez eux et qui font un peu comme si c'était leur propre marque chez le client. Et ça, je trouve que ça respecte pas trop la règle du jeu. C'est-à-dire que, le client, il s'y retrouve pas trop. Vous avez fait du vous-même pour lui. Et en même temps, ça mélange tout. Enfin, donc, le vrai enjeu, c'est d'arriver à comprendre qui vous avez en face. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, ce qu'il faudrait lui faire, si vous étiez lui.
Et ça prend combien de temps, ça?
Et ça, ça c'est assez immersif. Moi, j'arrive assez rapidement à rentrer dans les identités des autres, parce que j'essaye de rentrer dans leur identité, leurs besoins, leur passé. Je vis comme ça un petit peu ce qu'il faudrait faire. Et j'ai cette capacité assez souple et élastique de pouvoir rentrer rapidement dans les autres identités.
Et donc, chez Léonard, comment ça se passe, cet apprentissage de cet héritage-là assez fort?
Léonard, il me recrute en 8 jours.
D'accord.
Donc ça, c'est assez fou. En un entretien, c'était fait. 8 jours après, je commençais. J'avais déjà dû dessiner entre-temps pour arriver le 8e jour avec les croquis. Donc ça va très vite. C'est génial, j'adore ça. Et donc, on commence dans l'urgence, puisqu'il y a un défilé à faire pendant quelques mois. Et je m'imprègne. Alors, je m'imprègne du passé et je m'imprègne aussi évidemment de l'air du temps. Et je fais un croisement et une hybridation, comme en greffe florale, où vous coupez un bourgeon, vous le faites pousser, mais vous le mélangez avec d'autres choses. Et voilà, je greffe.
Comme vous restez le temps de plus long que d'une simple mission, vous avez aussi le temps de voir en interne les résultats de votre travail.
Oui.
Et ça c'était assez rare dans votre dans votre marque, mais sinon dans vos missions, c'était assez rare. Comment ça vous appréhendez ces retours-là et est-ce que ça a un impact aussi sur votre façon d'organiser le travail et de répondre aussi aux besoins de la marque?
Oui, c'est formidable parce qu'il y a un temps long qui s'inscrit en parallèle d'un temps court de la saisonnalité du défilé. Et ça, c'est génial parce que ça me permet de voir ce qui marche ou ce qui marche pas, sachant que ce qui marche, c'est pas forcément ce qui se vend. Ce qui marche aussi, ça va être ce qui percute, ce qui bouge, ce qui émeut et ce qui passe en presse. Et donc, il y a deux succès différents qui se mélangent. Et au-delà de ça, voilà, il y a un vrai feedback. Et ça, c'est bien aussi. Il y a aussi les freins intérieurs des fondateurs qui sont pas si simples à gérer dans un mouvement d'innovation. Et donc là, j'essaye de faire avec tout ça pour avancer. Et...
Quels sont les éléments forts de cette collaboration avec Léonard? Qu'est-ce qui vous a marqué aussi dans ce moment-là?
Ce qui m'a marqué, c'était leur héritage, leur passé, leur mémoire. Il y a ils ont 5000 dessins dans leurs archives. Mmh. Et il y a ce côté plongé dans le passé qui est forte, mais qui est presque... C'en est presque difficile de remonter et de se réélever vers le ciel, la suite. Et ça m'a fait comprendre les distances qu'il fallait avoir, à la fois s'immerger, mais en même temps se détacher. Voilà, des doubles zooms, quoi. Vous voyez, comme l'appareil photo qui doit à la fois être macro et en même temps vraiment avoir une vision grand angle à 360. En l'occurrence, là, je suis surtout sur la direction artistique des collections. Mais ce que je comprends là, au fur et à mesure de toutes mes expériences, c'est que vous avez beau faire les plus jolies collections possibles, si elles sont mal shootées ou mal représentées ou mal communiquées, eh bien, le travail n'est pas fini. Mmh. Et la perception de la marque reste entachée de quelque chose qui a déteint.
Justement, l'importance, alors, c'est de la communication, des réseaux sociaux. En 20 ans, ça a énormément évolué, ça s'est énormément transformé. Le poids de la presse magazine n'est pas le même qu'il y a 20 ans, et le poids des influenceurs qui n'existaient quasiment pas à cette époque-là s'est décuplé. Comment vous percevez ces évolutions-là, et est-ce que ça a une influence aussi sur la manière dont vous travaillez? Parce que j'imagine que c'est aussi se dire, telle pièce, on va peut-être pouvoir l'exploiter en influence et exactement, d'autres en presse. Comment vous structurez peut-être comment vous construisez votre proposition au regard de ces challenges-là?
Alors, ce monde des écrans et de l'image, ça remet un écran entre nous. Et finalement, je le comprends assez vite. Et donc, je travaille avec l'écran. C'est-à-dire que dès que j'ai fait un look, je regarde déjà dans mon téléphone comment il passe.
D'accord.
Parce qu'il y a plein de choses qui ne passent plus avec les écrans. C'est-à-dire que c'est Albert Elbaz à un moment donné qui disait toutes vos jolies petites robes noires, finalement, on les voit plus sur un défilé instagrammé. Mm-hmm. C'est juste des traits noirs qui passent comme ça. Et donc, alors là, je comprends qu'il faut exagérer, qu'il faut en raconter encore plus ou changer d'échelle, se rapprocher, zoomer sur les finitions, les détails, re-raconter un process, re-raconter un ancrage. Donc voilà, mais tous mes looks de show, je les passe au scanner de mon téléphone.
D'accord.
Pour voir s'il fonctionne.
C'est intéressant ce que vous dites, raconter le process, raconter... En fait, la manière de raconter l'histoire d'un produit ou d'une création a évolué aussi.
Oui, le storytelling est fondamental. Il vient incarner le produit. Le produit ne suffit plus. Le produit doit être chargé de valeurs et ces valeurs doivent être racontées d'une manière sympa.
Oui. Et il faut réussir à créer cette ambiance, emmener celui qui vous suit dans toute cette histoire.
Exact. Il y a un art du conte, il y a un art de l'histoire.
Et est-ce que cet art de l'histoire, il imprègne aussi votre démarche créative au moment où vous vous inspirez d'un univers pour une saison?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, chez Léonard, en fait, on doit travailler nos collections presque un an et demi à l'avance.
Oui.
Alors finalement, vous vous retrouvez avec trois collections à travailler. Mmh. Et si vous n'avez pas clairement défini quel était le thème, l'histoire et l'envie d'une collection, tout s'embrouille.
Oui.
Mais comme j'ai cette mécanique qui est hyper huilée avec mes anciens clients et que je sais vraiment cloisonner et faire des petits univers, des microcosmes, des petits métaverses, eh bien, je fonctionne comme ça.
D'accord.
Et donc, je fonctionne aussi par opposé. C'est-à-dire, la collection été avec des couleurs pop, la collection hiver, ça sera l'inverse. Ça sera plutôt des noirs et blancs et des couleurs sombres. Et puis comme ça, j'arrive à... Et je raconte un storytelling fort avec une histoire d'une héroïne ou d'un... j'y greffe plein de choses. Et comme ça, toutes les équipes sont alignées aussi et savent clairement à quelle histoire ça appartient, à quelle collection, et savent aussi approfondir l'histoire.
Oui. Ça leur donne les éléments pour bien travailler sur que ce soit la distribution ou l'équipe marketing.
Voilà, ou l'équipe broderie qui doit développer à partir d'une idée, un motif. Et là aussi, c'est une histoire de management. Je comprends aussi que pour faire tout ça, il va falloir responsabiliser, valoriser les gens et les manager avec finesse pour qu'ils puissent y trouver un goût du challenge, un goût de l'excellence, mais aussi une valorisation et puis une confiance.
Ouais. Ce point de management, c'est intéressant aussi quand on est créatif. Mais qu'on rentre dans une maison, il y a une grosse partie de management.
Énorme, ouais. Énorme. Il faut embarquer les équipes, ouais. Arriver à leur donner une vision claire de là où vous voulez les emmener, sur la valeur de la marque, sur les valeurs de la marque, sur l'objectif, et aussi au quotidien sur leurs tâches. Mmh. Quoi ça sert de refaire 20 fois le même prix, finalement, ils voient peut-être pas toujours la différence, ouais, entre quelques nuances de bleu. Mmh. Mais il y a quelque chose d'électrique qui vient irradier, il y a une lumière en plus, ou on raconte une énergie. Mmh.
En 2020, vous avez fini l'histoire avec Léonard. Mmh. On est aussi en période Covid. Oui. Moi, j'ai toujours une question sur comment, quand on est créatif, on vit cette période-là. Oui. Ça a marqué beaucoup de monde dans les différents, oui, métiers, mais dans la démarche créative et dans la manière dont les créatifs ont été impactés par cette, oui, période, j'ai toujours cette question-là. Comment ça vous a touché? Comment ça a changé votre façon de travailler, peut-être?
Alors, chez Léonard, à l'époque, j'y suis encore, mmh, et une chasseuse de tête, dès janvier 2020, me propose d'aller ailleurs. Et donc, je commence à passer les entretiens et le Covid arrive. Donc, février, mars, les entretiens continuent. Je fais mon défilé Léonard. Et là, confinement, toute la France, tout le monde entier s'arrête. Et je suis toujours chez Léonard et il y a toujours les entretiens qui se poursuivent chez l'autre marque. Et donc, mon process de recrutement prend 6 mois. Et en juillet, j'apprends que je suis prise, donc chez Princess Tam Tam, mmh, et j'informe l'équipe Léonard, je propose de faire une passation sympa, parce que je pense qu'il faut toujours partir en bon terme, avec intelligence relationnelle, et on fait une passation, et je bascule dans un autre univers, qui est l'univers de la lingerie, et du swimwear, et du homeware, et c'est parfait, parce que je vis quelque chose d'hyper fort, comme vous dites, ce confinement, ça nous a tous repliés sur nous, et en même temps, on sent qu'en fait, on tient grâce à la force mentale ou à la force du corps. Et, oui, et donc, ça m'intéresse passionnément d'aller travailler sur de la lingerie, sur l'inclusivité des corps, sur comment cette société bouge avec le regard sur les femmes, sur comment créer des vêtements qui nous font nous sentir bien avant tout. On bouge plus, on est tous habillés en jogging et pyjama. Oui. Donc c'est super d'arriver finalement d'être pleinement dans ce secteur du homeware.
Là, pour le coup, c'était vraiment, oui, un élément qui était clé, en pleine transformation et effectivement clé dans le quotidien, voilà, des Français et au niveau international.
Oui. Les silhouettes se libèrent, s'allègent, mmh, on est sur des choses extrêmement souples, la maille prend un poids très fort dans les collections et je suis vraiment ravie. Et donc pendant 2 ans, je deviens directrice artistique image de Princess Tam Tam. Et là, ce qui est beau, c'est aussi de se dire comment on valorise des stocks ou des collections qu'on n'a pas forcément faites, mais comment on va les raconter. Et donc, c'est bien, puisque je pousse à fond ce créneau-là, donc raconter un ADN de marque à travers des visuels, des vidéos, des newsletters, des vitrines, des objets annexes. Et c'est bien, ça complète, ça finalise une vision à 360 degrés sur la mode.
C'est un secteur, c'est à la fois un positionnement prix et un secteur complètement différent de ce que vous faisiez avant.
Rien à voir, exactement.
Comment on touche du doigt un secteur quand on ne connaît pas déjà?
Oui, alors j'avais toujours été habituée au grand écart stylistique, c'est-à-dire que même en ayant travaillé pour des maisons de couture, j'avais aussi pu collaborer pour Rossignol, faire, mmh, des vêtements de ski ou Lacoste, et en même temps quand même travailler chez Baby Dior à la ligne enfant où on faisait des robes qui coûtaient 3 SMIC, mmh, pour des enfants tout petits qui mettent leur robe une fois. Mmh. Et donc il y a à la fois ces grands écarts, ils me facilitent la vie pour ne pas m'embrouiller les pédales, ouais, entre les différents univers, et en même temps ils me nourrissent. Par exemple, de technologie, de tissu technique, que n'a pas l'un, mais que l'autre aimerait bien avoir ou explorer autrement. Pardon, j'ai oublié votre question.
Non, et justement, comment basculer sur cette partie, oui, beaucoup plus grand public quand on a travaillé presque 4 ans du haut de gamme?
Et bien, ce qui est bien, c'est que j'ai pu premiumiser l'image de la marque Princess Tam Tam. Mmh. Et donc, ça a été un vrai plus d'avoir ce goût et cette capacité à créer des choses qui ont l'air haut de gamme. Pour vendre des petits maillots de bain à 69 €.
Et... Oui, et dans des magasins qui sont dans chaque ville de France.
Exactement, qui sont hyper diffusés et des magasins qui sont parfois fermés. Donc, il faut aussi générer un rêve, une adhésion, des valeurs fortes. Mmh. Puisque on ne vend pas que le produit, on vend vraiment tout ce qu'il y a autour, derrière, avant, après.
C'est ça qui est intéressant, c'est que ces éléments-là pour séduire et vendre, ce n'est pas seulement sur le luxe, pas seulement sur le premium, c'est valable aussi chez un acteur du mass market ou mass market premium comme Princess Tatlam.
Oui, encore plus valable pour eux, je pense.
Mais
c'est fondamental, sinon vous en avez plein d'autres, des produits qui se ressemblent chez les autres marques.
Exactement. Donc,
c'est un vrai élément différenciant d'adhésion.
L'expérience chez Princess Tamtam et ce côté grande distribution justement, ça vous a appris quelque chose de différent aussi du secteur de la mode ?
Oui, ça m'a appris à simplifier les messages. C'est-à-dire que à l'époque, enfin chez Princess Tamtam, c'est donc dirigé par Fast Retailing et ils ont une logique hyper rationnelle.
Donc c'est le propriétaire d'Uniqlo, grand acteur japonais de la grande distribution mode.
Monsieur Yanai, qui possède la marque. Et ils ont une vision japonaise hyper rationnelle où chaque chose est un concept et doit avoir un besoin, une utilité, un fond, une fonctionnalité. On est dans un lifestyle fonctionnaliste. Sauf que la lingerie, c'est tout sauf ça. Enfin, c'est évidemment, c'est une culotte, mais ou un soutien-gorge qui tient. Mais c'est aussi avant tout un objet de désir, un objet de plaisir, un objet presque décoratif.
Donc, et très intime.
Et très intime, mais qui parfois se dévoile. Voilà. J'apprends une vision plus rationnelle et aussi à simplifier les concepts et à les pousser, les porter jusqu'au bout. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que là-bas, j'apprends aussi une capacité à créer des permanents, des produits qui vont rester comme un fond de rayon, mais qu'on va renouveler par un regard de direction artistique, visuelle. C'est-à-dire que vous shootez tel look sur une caucasienne et la saison 2, vous le mettez sur une black, un peu plus curve.
Ouais.
Et finalement, vous avez un autre rendu, vous pouvez le styler différemment. Et j'apprends cette multiplicité, cette plasticité des éléments qu'on peut jouer avec les stylings et communiquer des communautés, en fait.
C'est intéressant que vous parliez de communauté et vous l'avez touché du doigt aussi sur le fait que le rapport au corps, le rapport à ce que se comporte a évolué aussi ces dernières années. Vous, comment vous percevez l'évolution des consommateurs, des aficionados de mode? Comment vous voyez leur évolution?
Si je peux revenir sur ça aussi, à ce moment-là, du Covid, tout le monde brûle son soutien-gorge. Vous vous rappelez, tout le monde le jette, c'est
le
no-bra movement. Et les hommes se mettent aussi à porter de la lingerie et des brassières pour femmes. Et il y a un vrai décloisonnement des genres. Et donc, on vit ça aussi, je vis ça pleinement en étant dans ce secteur de la lingerie. Donc ça, c'est passionnant de toucher du doigt l'idée que les codes masculins et féminins sautent et que cette nouvelle génération, elle est totalement libre. Et que je suis intervenue à Dupéré pour faire une masterclass. Et les mecs, la moitié des mecs étaient maquillés avec du blush, du mascara, et portaient leurs sacs, comme les sacs au coude, tu sais, comme les petites vieilles dames. Et voilà, tout a sauté, quoi. Enfin, c'est extrêmement nouveau, ça. Et c'est très assumé. Et les filles s'habillent aussi avec des vestiaires masculins et tout se mélange. Et il n'y a plus d'idée aussi de la nouveauté absolument. Il y a quelque chose d'assez beau dans l'idée d'un vestiaire qui est réutilisé, qui est recyclé, qui est upcyclé, de pre-loved.
Oui.
Des vêtements qui ont déjà été, qui ont déjà une âme, qui ont déjà été aimés, qui ont déjà été portés et qu'on se réapproprie.
Et ça vous inspire aussi
Ça m'inspire énormément.
Pourquoi?
Parce que c'est une vraie réaction à cette surproduction de vêtements qu'on vit et qui nous a aussi bouleversés ces dernières années. Enfin, on les a tous vus, ces documentaires sur le Ghana ou sur le désert d'Atacama. Et c'est monstrueux, c'est un cauchemar éveillé, en fait.
Ce sont des zones de la planète où, effectivement, tous nos déchets textiles finissent et polluent ces zones. Soit le désert d'Atacama très vierge, soit effectivement au Ghana, où il y a des populations qui, semble-t-il, tombent malades autour de ces décharges, immenses décharges à ciel ouvert.
Oui. Polluent la nature et polluent aussi les hommes, les métiers, les artisanats locaux. Et voilà. Et donc là, on est à une phase charnière de notre époque. On se rend compte qu'il y a trop. Les ressources sont limitées. La planète prend feu. Et c'est compliqué en tant que créatif quand on sent qu'on est aussi à l'origine. Que créer, c'est aussi détruire. Si vous faites des collections très belles chez Fast Retailing, finalement, il y a quand même un moment où ça finit assez vite en futur déchet. Et cette prise de conscience, elle est assez violente aussi, de se dire plus j'ai du succès dans une création qui percute et qui trouve son sens, plus potentiellement je pollue. Et donc, c'est assez. Là, je rencontre pendant cette période de Covid un vrai moment où je me dis, ça me frigorifie en fait, ça me gèle. Mmh. Je me dis, bah, c'est trop culpabilisant, c'est terrible. J'ai une responsabilité sociale, personnelle et très collective en fait, puisque mon geste créatif, mon dessin, il peut entraîner jusqu'à 3000, 5000 produits derrière à la chaîne, et de ça aussi, des conditions de travail peuvent être extrêmement impactées. Donc là, j'ai un moment d'arrêt où je n'arrive plus à créer. Et je suis contente d'être dans la direction artistique image, puisque je valorise des choses déjà faites.
Mais ça vous a bloqué?
Ça m'a bloqué temporairement. Je me suis dit, mais quel est le sens à produire encore d'autres vêtements, puisqu'il y en a déjà trop. Mmh. Et puis, ce dont on se rend pas compte quand on est, enfin, être jeune créateur ou être créatif émergent, c'est aussi une lutte de toutes les étapes. Personne ne vous attend, il n'y a pas besoin, tout est compliqué parce que vous payez tout prix fort, parce que vous n'avez pas assez de quantité, vous n'avez pas les façonniers vous suivent pas. Donc tout est extrêmement lourd et puis ça n'a plus de sens si c'est pour finir encore dans des garde-robes qui débordent et voilà. Donc là, je fais un temps de pause et je me dis bah, comment réinventer la suite à mon échelle et à celle plus grande d'une entreprise.
Oui.
Je veux absolument m'engager au sein d'une marque ou d'un groupe qui ait compris qu'il faut faire les choses de manière sustainable, engagée, responsable, avec des matériaux certifiés, dans des conditions de travail respectueuses. Et que ça doit rester aussi un travail de création. On ne peut pas faire que des basiques et s'habiller qu'avec des basiques. Voilà. Donc je suis face à cette double polarité,
oui,
complètement opposée, que je n'arrive pas à résoudre pendant un temps. Et au bout d'un moment, quand même, ça me démange. Je suis vraiment... voilà. Je me dis, il faut avoir le courage d'avancer et d'essayer de trouver des solutions en faisant. Et donc, c'est pour ça que j'ai relancé ma marque il y a 9 mois.
D'accord.
Autour d'un projet 100% made in France, imprimé sur des encres éco-certes, avec des encres éco-certes sur des poplines bio à Lyon et cousu à Paris.
Donc, il y avait derrière la relance de votre marque, il y avait vraiment
cette
l'envie.
Utopie.
C'est l'utopie.
Complètement.
Oui.
Voilà. De résoudre cette problématique que des entreprises peinent à mettre en œuvre à cause de leur échelle.
Oui.
Alors que moi, individuellement, c'est quand même plus simple d'aller acheter un rouleau de 50 mètres, 100 mètres, de couper 100 chemises et d'arriver à déjà résoudre certains points que je pourrais mettre après au service d'autres marques.
Oui.
C'est de trouver les bons sourcings, de trouver les bonnes manières de faire.
C'est un apprentissage des nouvelles bonnes façons de faire.
Exactement. C'est expérimenter comme un laboratoire pour mettre en place des process et dire, voilà, moi j'ai compris quelque chose, je vais vous aider, on va le faire. Ou trouver des gens qui ont la même vision, avec des valeurs similaires.
Donc ça veut dire que vous avez encore envie de travailler pour d'autres et pas juste pour votre marque.
Voilà, je garde l'envie de travailler pour d'autres parce qu'en fait, c'est pas de l'artisanat, on est quand même dans une industrie.
Oui.
Et que si on veut changer aussi les choses, il faut aussi arriver à les changer à une plus grande échelle.
Oui. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure sur le maire,
oui,
qui était dans un nouveau modèle en 2002,
oui,
vous diriez que le nouveau modèle de 2023 ou 2022, ça s'apparente à quoi quand on est créatif?
Alors, à mon avis, le nouveau modèle de 2023, il réfléchit circularité avant tout. C'est-à-dire que ce que je crée doit pouvoir être éventuellement recyclable ou diffusable autrement. Et ce que je crée peut-être n'utilise pas des choses... Enfin, réutilise des... Il y a du réemploi, il y a de l'upcycling, il y a un mélange de matériaux bio, biosourcés ou recyclés. Et puis, il y a cette vision complète de la fin de cycle du produit. Et donc, pour ma marque, en l'occurrence, j'ai pensé à un objet qu'on aura envie de garder. Alors, je ne sais pas si je résous la chose, mais j'ai pensé à un objet émotionnel qui sert et qui se porte de plein de manières différentes, qui est une chemise, mais qui peut se porter en surchemise, en robe, et qu'on a envie de garder parce que j'ai constaté qu'on gardait nos chemises très longtemps. Il y a des chemises que je garde depuis 10 ans, 15 ans, et j'adore, et ça se prête, et ça se donne, et ça se transmet, puis ça peut se relooker différemment, ça peut se reteindre, enfin, voilà, c'est...
On peut les retravailler.
On peut les retravailler,
elles
exactement.
On peut avoir plusieurs vies et voir plusieurs personnes qui les ont aimées avant.
Exactement, voilà.
Sur cette évolution-là, votre marque, vous l'imaginez comment, justement, c'est un laboratoire ou elle a vocation à grandir avec des valeurs structurées?
Elle a vocation à grandir avec des valeurs structurées et à se déployer. Pour l'instant, je commence par cette ligne de monoproduits sustainable et arty, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une facette de création qu'il est fondamental de garder pour que le produit ait une âme et une singularité. Et dans l'idée, j'aimerais construire un modèle économique qui tienne et qui soit déployable et qui aille différents degrés. Donc peut-être une ligne plus couture avec issue de choses greffées, upcyclées, et une ligne de bons, de très beaux produits. Parce que pour moi, le beau se rapproche du bon et du bien. Il faut cette trilogie. On peut pas faire du beau et détruire la planète. Enfin, il y a quelque chose qui marche plus. Enfin, moi, je me sens trop coupable. Et puis, c'est pas possible.
Mais on sent que c'est vraiment la culpabilité de l'ensemble du secteur vous pèse beaucoup.
Oui. Mmh. Et arriver à le résoudre individuellement, c'est aussi arriver à le résoudre collectivement. Mmh.
C'est cette prise de conscience aussi de tous les acteurs qui peut faire avancer collectivement le secteur.
Oui, complètement. Et ce que j'arrive à mettre en place là, à mon échelle, est duplicable à D'accord. une échelle plus grande.
D'accord.
Ce que j'arrive à faire en Made in Paris, avec des cotons bio, bah, c'est facilement duplicable x 10.
Mmh. Donc, il y a des solutions.
Il y a des solutions. Mmh. Elles sont plus complexes à mettre en œuvre. Elles sont difficiles aussi à certifier. Il y a des choix cartésiens impossibles. Parfois, vous avez des cotons qui sont super, qui s'impriment très bien, mais qui sont pas bio. Et puis, votre coton bio, bah, qui s'imprime plus difficilement, qui est plus cher et qui est peut-être moins doux. Donc, il y a des vrais, vrais choix de radicalité. Mmh. Faut tenir la ligne. C'est pas si simple.
Non, j'imagine. Voilà. Les collections, vous commencez à les commercialiser quand ?
Oui, alors elles vont être vendues chez L'Exception, un concept store de créateurs français et qui a une partie engagée sur le Made in France à partir du mois d'août.
D'accord, donc vous travaillez dessus depuis 9 mois et donc les premières collections
sont... Les productions sortent, dans 2 semaines. Je les livre et ça sera diffusé.
Est-ce que le fait de travailler sur du Made in France, oui. ça a aussi changé vos façons de travailler en termes de temps, de livraison, vos process ont évolué par rapport à ça ?
Heureusement, il y a aussi des avantages
à
travailler le Made in France. C'est-à-dire
c'est pour ça que je voulais aller là-dessus un petit peu.
Un petit coup de métro, on peut aller reposer les élastiques qu'on a oubliés ou rajouter des petites quantités et puis aller redéposer les griffes qui manquent. Oui, il y a vraiment une souplesse. En 5 minutes, on y est. Voilà.
Comment vous voyez l'évolution de ce secteur de la mode, justement, avec la partie créative, avec ce besoin de singularité, de désirabilité. Comment vous voyez cette évolution-là et comment vous qui avez travaillé pour des marques créateurs, des marques plus grand public, vous voyez de la place pour tout le monde ou comment vous sentez cette évolution du secteur? On voit que le secteur est très chamboulé actuellement, c'est pour ça que je me permets cette question.
Moi, ce que je pressens, c'est une polarisation de la société et une polarisation des marques et des niveaux de gamme. Ce qui a déjà été enclenché depuis quelques années, notamment avec le Covid, c'est-à-dire qu'à mes yeux, il ne restera plus que 2 typologies de marques, des marques type Hermès, Chanel, Dior, Vuitton, et puis des marques type Zara, Shine... Voilà. Et tout l'entre-deux, il est hyper complexe à vivre, même pour eux-mêmes. On les voit d'ailleurs, ils s'écroulent au fur et à mesure, ils perdent leur marge avec l'inflation, ils n'ont pas la puissance des quantités pour tenir, ni l'attractivité du prix pour... Et en même temps, ils n'ont pas ces valeurs immatérielles, intemporelles, suffisamment fortes pour aussi générer une adhésion de valeur refuge. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est à l'image de la société qui, elle aussi, malheureusement, se polarise avec des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches. Et les marques seront à cette image-là.
Et vous, dans ce paysage-là,
comment je me positionne ?
Comment vous positionnez et quelle valeur ajoutée ou quel élément de différenciation vous possédez ?
Oui. Alors moi, mon rêve, là, c'est vraiment de continuer à faire les choses de manière respectueuse, engagée, humaine et avec un temps long, avec une considération des ressources naturelles et des humains, et de faire quelque chose qui a du sens. Et donc, idéalement, je pense que je suis plus en phase avec les valeurs du luxe. Voilà.
Christine Fum, merci beaucoup pour cet échange.
Merci Olivier.
On vous souhaite le meilleur pour le lancement de la marque.
Alors. Merci. Merci à tous de m'avoir écouté.
Merci. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.
Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.